dont la puérilité dépasse l'entendement, l'appât d'une fausse identité, quelques tickets de pain et une propagande faite pour des esprits naturellement abêtis. Le journal L'Œuvre met en avant quand même leur appartenance politique. Bien que la plupart des inculpés se défendent d'être communistes, leur organisation, comme par hasard, est calquée sur celle du Parti communiste clandestin et des FTP que contrôlent les hommes de Moscou, Londres et Alger. Le journal Les Nouveaux Temps insiste sur le fait que beaucoup de ces hommes sont juifs. Le juif sans patrie qui a pris rang parmi les patriotes entend en réalité nous amener le chaos bolchevique dont il est le seul à tirer profit. Alors, le pire dans tout ça, c'est sans doute le portrait physique fait par Le Matin de Missak Manoukian, décrit comme un animal. Des cheveux de jais, des yeux de nuit, des sourcils touffus dont les pointes s'allongent sur les tempes où elles rejoignent les pattes, la partie inférieure du visage avancée comme un groin. Et de ses compagnons, Le Matin écrit « Ils n'ont rien dans les yeux, qu'une sorte d'inconscience bestiale qui vous donne le vertige. C'est ça l'avant-garde de l'armée de la libération », ironise L'Œuvre. Alors je terminerai par quelque chose de plus beau, je dirais, un extrait de la lettre que Missak Manoukian a écrite à sa femme juste avant d'être fusillée. « Ma chère Mélinée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé, que j'ai dit adieu à la vie, à vous, ma chère femme et mes chers amis. »
Un commentaire sur ces textes, Benoît Reski, très différent évidemment entre la lettre de Manoukian qui a été fusillée, je rappelle, le 21 février 1944 et ce qui précède, ce qui a précédé.
Donc, sur les textes de la collaboration, on va les juger infâmes, répugnants, dégoûtants, mais ils sont, c'est frappant, parce que quand on entend les termes, ils sont dans la tradition, comment dirais-je, de l'antisémitisme d'extrême droite d'avant-guerre. Mmh. Où le juif était très souvent montré par ses aspects physiques assez répugnants. Déjà, là, c'est pas quelque chose qui a été inventé, ça se nourrit de toute une presse qui a existé entre deux guerres et qui avait, j'ose pas dire ses lettres de noblesse, mais qui avait son droit de citer. Et il y a pire, il y a un autre journal, c'est pas pour vous reprocher de pas l'avoir mis, qui écrit la chose suivante, et pensez donc, on leur a dit de l'écrire. Reimann a déclaré au procès qu'il aimerait voir les rues de Paris pavées de têtes de femmes et d'enfants goy. Mmh. Donc, on imagine.
Est-ce que justement, quel était l'impact sur l'opinion publique? Parce que il y a eu cette presse que tout le monde pouvait lire, il y a eu l'affiche rouge. Est-ce que ça a influencé les Français qui voyaient tout ça? Et dans quel sens?
Écoutez, je ne suis pas historien, mais ce que je pressens, c'est que nous sommes en 44. Le régime de Vichy, aux yeux de la plus grande partie de la France, est un régime condamné. Je ne dis pas qu'il a toujours été réprouvé. Il est condamné. Il s'est allié aux Allemands. Les Allemands vont être battus. On le sait, on le sent. Je ne pense pas que ça ait un grand impact. Sauf peut-être quand même d'insister sur le fait qu'ils sont étrangers, parce que quand on lit la presse communiste clandestine de l'époque, elle s'évertue, et on peut la comprendre, sans nécessairement l'approuver, à dire qu'ils ne sont pas étrangers, à le dire qu'ils sont français, à dire que ce sont des patriotes français, parce que c'est une propagande qui fait mal. Alors cet aspect-là, c'est assez difficile à démêler, si vous voulez ce que je veux dire.
Et comment se fait-il que, après la guerre, on est très vite oublié ces combattants, les FTP-MOI, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont retournés dans leur pays, c'était des antifascistes qui n'avaient plus de raison d'être loin de chez eux une fois que le fascisme était tombé. Certains ont même été chassés pendant la guerre froide parce qu'ils étaient communistes, renvoyés dans leur pays. Quand c'est-il qu'on les ait oubliés? Il y a eu ce poème, évidemment, d'Aragon en 55, mais je crois qu'à l'époque, peu de gens le connaissaient.
Écoutez, c'est un phénomène qui est complexe. Après la guerre, il y a des célébrations de l'affiche rouge et des 23. Elles n'ont pas l'écho qu'à aujourd'hui. L'affiche rouge, c'est tout à fait indéniable. Le Parti communiste français, que je dis comprendre sans l'approuver, a besoin d'être un parti national, pas un parti à la solde de l'étranger. Il ne lui est pas agréable d'insister sur le fait que, au moins à Paris, la majorité de ses combattants étaient soit juifs, soit étrangers. Il a plutôt besoin de Jeanne d'Arc, il a plutôt besoin d'Hugues Éclin pour être le parti de la France, ce qu'il est. Et en plus, il est qualifié le malheureux. d'être le parti à la solde de Moscou. Ça fait beaucoup. Donc, il est patriotard.
Donc, il n'en parle pas beaucoup lui-même.
Donc, il n'en parle pas beaucoup. Il n'empêche qu'il y a ce poème précédé par un poème d'Éluard aussi avant. Mais ça n'a pas l'écho que ça a aujourd'hui.
Alors, beaucoup, effectivement, de ces combattants, résistants et étrangers de la MOI se sont tus, comme c'est le cas d'ailleurs d'Henri Krasucki, qui a été arrêté et déporté en Allemagne en 43 et qui a refusé de parler de sa participation à la résistance avant d'avoir quitté ses activités syndicales à la tête de la CGT. Écoutez ce qu'il me disait en 1996 sur la leçon qu'il fallait tirer de l'expérience qu'il avait vécue au sein de la résistance étrangère.
Ces étrangers, ils ont combattu, ils ont risqué, ils ont souffert et beaucoup ont donné leur vie pour la France et pour la liberté. Ils ont contribué à écrire une belle page de l'histoire de France et les survivants se sont tout naturellement intégrés dans notre peuple, dans la nation française. La MOI, en somme, c'est un clin d'œil de l'histoire à la vie contemporaine. Le racisme, la xénophobie, ça peut conduire au pire, on l'a vécu, et cela abaisse l'homme. Mais la réponse des immigrés de cette époque-là ne manque pas de grandeur. Mais pourquoi est-ce que ce serait valable seulement hier et quand la France est dans le malheur? Il y a là, aujourd'hui, une richesse humaine, des atouts pour la France, il faut savoir agir en conséquence pour vivre et construire ensemble.
C'était Henri Krasucki qui est mort il y a un an, janvier 2003. Un commentaire sur ce que tu viens de dire, Benoît Reski?
Oui, d'abord c'est très émouvant de l'entendre. Krasucki avait 16 ans et des poussières quand il a été arrêté. Il n'a pas été arrêté les armes à la main. Il était responsable des jeunesses communistes juives qui étaient l'antichambre des FTP-MOI. Pour les jeunes, et puis après on sélectionnait ceux qui pouvaient tirer et tuer. Il est déporté à Auschwitz avec une cinquantaine d'autres, des jeunes du 11e arrondissement, un quartier très attachant pour plein d'autres raisons. Et comme ils étaient jeunes, ils ne sont pas allés à la chambre à gaz. On les mettait au travail. Ils étaient tous juifs, hein, ceux qui ont été arrêtés. Et une partie d'entre eux a survécu, donc Krasucki et quelques autres. Et ce qu'il y a de touchant dans ce qu'il dit, moi, ce qui me touche, c'est pas ce qu'il dit pour aujourd'hui. Non pas que je ne sois pas d'accord, bien sûr. C'est ce qu'il me dit pour hier, parce qu'il porte témoignage d'un monde de petites gens, qui était un monde merveilleux de générosité, de gentillesse, je n'ose pas dire de courage. Je parle du monde juif du 11e arrondissement, qui était un monde où se battre, quand il fallait se battre, était une chose aussi naturelle que de se tenir bien à table. Il n'y a pas de question d'héroïsme. Ils y vont naturellement. Vous savez, comme dans le chagrin et la pitié, il y a les deux vieux paysans là qui ont demandé pourquoi vous avez fait de la résistance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre, répondent-ils. Pour eux, c'est pareil. Qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent d'autre, ces juifs-là, que d'aller tuer des Allemands quand on leur permettait de le faire? Ils ont eu la chance de le faire et ceux qui sont morts ont eu la chance de mourir au combat.
Et sont morts pour certains d'entre eux le 21 février 1944 lorsque les 22 des 23 du groupe Manouki ont été fusillés donc le 21 février 44, c'est-à-dire il y a 60 ans à un jour près, et que l'on retrouve aussi dans votre livre, dans Reski, que je recommande, dont je recommande la lecture, L'Affiche Rouge, un livre publié aux éditions du Félin. Vous êtes également l'auteur d'un livre rouge publié aux éditions du Seuil et de L'Enfant Juif et l'Enfant Ukrainien, réflexion sur une imposture, publié aux éditions de l'Aube. À lire également La Libération Inconnue, à chacun sa résistance, un livre de Maurice Girachfus qui sortira aux éditions du Cherche Midi fin avril. Vous avez pu entendre des archives extraites de l'émission L'Histoire en Direct, diffusée sur France Culture en décembre 1989, ainsi que la lecture du texte de L'Affiche Rouge par Jacques Charby. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com.